Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Central. Aujourd'hui, je me retrouve avec BR. BR, BR,
Salut,
comment tu
salut.
vas?
Très bien, et toi, Barry? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du deux ensemble.
Ouais, de fou, ça date. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'excellent Lionel Messi. Avant qu'on aborde le sujet, je voulais juste vous dire d'aller faire un tour dans les commentaires et de voir par rapport au livre audio que vous voyez juste en bas, Audible. En partenariat avec Amazon. Du coup, vous avez des réductions, vous avez des choses très intéressantes. Donc, allez faire un tour dans les commentaires et vous verrez le lien du coup. Alors, du coup, BR, aujourd'hui, bah, on va en parler Messi, comme j'ai dit, qui réalise un début de saison que je trouve, on va dire, tonitruant. Bon, ce n'est pas Lionel Messi qu'on a connu de l'époque, mais c'est un Lionel Messi très intéressant, que ce soit en sélection ou en club. Qu'est-ce que tu en penses? Quels sont les points positifs que tu as vus dans le Lionel Messi actuel et quels sont les points négatifs aussi que tu peux voir depuis le début de saison.
Ouais, comme tu l'as dit, pour moi, c'est pas le Messi Prime. On voit beaucoup de gens dire, ouais, peut-être c'est le retour du GOAT. Les gars, le retour du le GOAT, c'est 91 buts en une année civile. Donc, je pense qu'on le reverra plus jamais. Mais par rapport à l'année dernière, c'est vrai que c'est le jour et la nuit. Déjà, d'un point de vue statistique, la base, c'est qu'il recommence à marquer. L'année dernière, c'était un joueur qui nous mettait de temps en temps un but, mais qui a pas mis plus de 11 buts sur la saison. Là, il a déjà 11 buts en 2 mois. Et là, sur les 3 derniers matchs du PSG, par exemple, il marque contre Nice, très beaucoup franc, contre Lyon et contre Haïfa en Ligue des Champions aussi. Plus en Argentine, sur les 2 matchs internationaux, il met 2 doublés. Donc, tu vois, comme a dit Christophe Galtier, il retrouve le goût de marquer. C'était un peu sa patte, parce qu'on assimile beaucoup Messi au dribble, à la création, mais il faut pas oublier que c'est quand même un des meilleurs buteurs de l'histoire du football. Donc, le revoir marqué, c'est super important. On voit qu'il recommence à prendre du plaisir. Et on va sûrement en parler, mais pour moi, c'est Christophe Galtier n'en est pas innocent, on va dire. C'est pas un hasard, parce qu'avec Pochettino, ça ne fonctionnait pas. Même s'il n'y a pas que ça comme facteur, mais je pense aussi que la tactique de Galtier lui convient beaucoup mieux.
Bah après, je suis plus ou moins d'accord avec toi sur plein d'aspects. Déjà, la première chose, c'est forcément, on n'aura pas le Lionel Messi Prime, tu vois. Ce n'est pas le Messi de 2012, ce n'est pas le Messi de 2017, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui avait réalisé une grosse saison aussi. Forcément, le gars a 10 ans de plus, voilà, il est beaucoup plus âgé. Par contre, dans le nouveau rôle qu'il a au Paris Saint-Germain, je le trouve beaucoup mieux que l'année dernière. C'est vrai que l'année dernière, on l'avait cantonné à une position déliée, on va dire. Il était très excentré, du coup il ne participait pas au cœur du jeu où justement par rapport à ses qualités athlétiques actuelles aurait peut-être été beaucoup plus intéressant pour lui.
Tout à fait.
Moi j'ai l'exemple de match où à certains moments on voyait Messi qui partait du milieu de terrain, tu vois, avec des joueurs adverses qui étaient plutôt en bloc haut, donc du coup qui était bah, justement ce que Lionel Messi adorait. Forcément, à l'époque il pouvait te passer 2-3 joueurs et te mettre un but d'anthologie. Aujourd'hui il n'est plus capable de le faire, tu vois. Donc voilà, là aujourd'hui on l'a mis dans le cœur du jeu, plus en backup, il est moins haut sur le terrain. Il a accepté ce rôle on va dire, de travailleur de l'ombre, parce que même si j'aime pas trop ce terme-là, un numéro 10 en général est très peu dans l'ombre, mais quand tu as un Neymar qui réalise le début de saison, tonitruant qui réalise, et un Kylian Mbappé, qu'on le veuille ou non, qui réalise une saison en demi-teinte, certains le diront ça, je ne suis pas forcément d'accord avec ta analyse là, mais bon bref, qui reste quand même la star de ton équipe, qui reste quand même l'atout majeur en attaque. Bah forcément, toi, tu as peut-être besoin d'être plus en backup et d'aider cette équipe-là au mieux. Et bah, je trouve qu'il le réalise d'une excellente manière. J'ai l'impression que cette année, j'ai l'impression de voir le Lionel Messi qu'on a depuis quelques saisons du côté de l'Argentine. Tu vois, ce Lionel Messi qui est davantage plus dans le playmaking et qui va stater plutôt dans les passes décisives. Quand il met des buts, c'est plutôt parce que bah, soit il était là au bon endroit au bon moment, mais très peu dans la projection offensive. Et donc, je trouve ça très intéressant. Après, même, il y a d'autres points sur lesquels je le trouve beaucoup plus intéressant que la saison dernière, sur le cadre défensif. Alors, ça, j'en discutais encore un peu plus tardivement dans la vidéo, mais je trouve que défensivement, il apporte quand même quelque chose. Il est quand même assez intéressant. Il est souvent bien placé offensivement. Même s'il y a des choses qui peuvent être dérangeantes à certains moments, je trouve que, il est simple. Il essaie moins de comment dire, par rapport à la saison dernière. La saison dernière, je ne le trouvais pas en forme. Et je trouvais que bah, par rapport à sa méforme, il essayait toujours de performer balle au pied. Alors que là, cette saison, il est plutôt davantage dans une logique de bah, je vais jouer simple, je vais jouer en une touche, je vais essayer de remiser sur Neymar, je vais essayer de remiser sur Mbappé, je vais essayer de remiser sur Vitinha, Verratti, je vais essayer un peu plus d'être plus mobile que la saison dernière. Et je trouve que c'est parfait cette saison, tu vois. C'est pas le Lionel Messi Prime, mais on a quand même le Lionel Messi qu'on voulait avoir la saison dernière.
Ouais, mais il y a surtout un point qui est hyper important dans ce que tu dis, mais qui est complémentaire, c'est aussi physiquement. Moi, dès le premier match de préparation, on a joué la Ligue 2 de Quevilly-Rouen. Premier match de préparation, il joue 45 minutes, il presse, contre-pressing, etc. Beaucoup de dribbles. Je me suis dit, ouais, c'est pas le même Messi que j'ai vu l'année dernière. Moi, je pensais que Messi, limite, tout le monde me disait qu'il était fini, qu'il n'avait plus rien dans les jambes. La première match amical contre une Ligue 2, je voyais directement qu'il était en jambes. Et après, il est monté en puissance. Et là, on le voit encore, là, contre Nice, vu que tu as regardé le match toi aussi, physiquement, à un moment, il dribble 2, 3, 4 joueurs. Ce petit coup de rein, là, c'est pas le même forcément qu'il y a 10 ans, mais ça n'a rien à voir avec l'année dernière. Ou l'année dernière, tu sentais que balle au pied, limite, tu as l'impression qu'il est en train de tracter des gens derrière lui. Là, on
Bah
sent que physiquement, il y a sûrement la tête, parce qu'il l'a dit en interview, il a dit que mentalement, ça n'a rien à voir avec l'année dernière, qu'il a eu beaucoup de mal à s'adapter à Paris, que partir de Barcelone, ça a été dur pour lui, pour ses enfants, pour sa femme, et que quand il est arrivé au début, il venait de gagner la Copa América, donc forcément, il avait un peu réalisé son rêve. Plus il part de Barcelone, donc pour lui, c'était vraiment une nouvelle carrière qui commençait. Mais physiquement, moi, c'est vraiment le point où il m'impressionne le plus. Sûrement comme Neymar, c'est pour la Coupe du Monde, hein, je me fais pas de faux semblants. La Coupe du Monde en hiver, ça change peut-être leur préparation aussi. Mais je pense vraiment qu'il a envie de bien faire aussi, peut-être même plus que Neymar. Je pense que Neymar est vraiment plus concentré sur la Coupe du Monde et je pense que vraiment Messi a envie de prouver à tout le peuple parisien qu'on l'a pas pris en pré-retraite, mais qu'on l'a vraiment pris pour vraiment nous faire gagner peut-être la Ligue des Champions.
Bah, surtout l'année dernière aussi, il arrive tardivement. Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas
Sans
souligné, mais
prépa, ouais.
lorsqu'il arrive, il est sans préparation physique. Il arrive au mois de septembre. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, les deux premiers matchs après son arrivée, il ne joue pas. Ensuite, il joue un mois, il se blesse, tu vois. Donc, ça a été compliqué pour lui pour s'adapter à Paris. Mais voilà, je trouve qu'il s'est bien relancé cette saison. Et après, oui, forcément, il y a quand même la Coupe du Monde qui n'est pas à, comment dire, à nier dans sa bonne forme. Mais bon, moi, personnellement, que tu sois en bonne forme pour le Paris Saint-Germain, pour ton équipe, tant que t'es performant, je m'en fous complet.
Je suis
Ça,
bien
c'est la
d'accord.
première chose. Après, voilà, après même, dans tous les cas, comme il le dit, ils se sont, comment dire, il est mieux dans sa tête et ça se ressent sur le terrain. Comme tu disais, dans la vivacité, on sent qu'il a récupéré les jambes. Alors, c'est comme tu as dit, tu vois, c'est plus Lionel Messi qui va te passer 5-6 joueurs, tu vois, qui faisait des mouvements d'anthologie qui étaient impossibles à arrêter parce qu'il était extrêmement rapide. Bah, maintenant, tu as Lionel Messi qui est plus lent, mais qui va être mieux placé, qui va mieux gérer ses efforts, qui va être plus intelligent dans sa manière d'envoyer le ballon, etc. C'est pas pour me déplaire, c'est ce que tu avais besoin à Paris. À Paris, en numéro 10, tu n'as pas forcément besoin d'un numéro 10 qui aura des jambes de fou. Qui va te faire des projections en avant-balle au pied, ça serait bien si tu l'as, tu vois. Mais avoir un numéro 10 qui est davantage en backup, en sachant que Kylian Mbappé, lui, va prendre la profondeur, en sachant que Neymar, lui, justement, va être un peu plus vif, un peu plus tonitruant dans ses projections et dans ses redescentes vers le milieu de terrain, pour moi, c'est pas pour me déplaire. Après, voilà, là, on parle des points positifs, mais bon, moi, j'aime bien creuser aussi. J'aime bien trouver des points négatifs parce qu'il y a des points négatifs, tu vois. Faut pas dire, ouais, le gars, il est incroyable. Il y en a forcément. Quels sont pour toi les points négatifs cette saison de Neymar? Je suis un fou. De Lionel Messi et pourquoi, du coup, tu vois ces points négatifs, toi?
Bah déjà, moi, la première fois où je me suis dit, ouais, peut-être qu'il y a vraiment des points négatifs, c'est quand on a joué contre Haïfa. Où vraiment, j'avais vraiment l'impression que le match l'intéressait pas, quoi. Il était là, je me demandais, après, Galtier a dit après qu'il faisait 40 degrés, etc., qu'il y avait une atmosphère en particulier, mais moi, de mon ressenti en tant que spectateur, j'avais vraiment l'impression qu'il était là en mode, vas-y, ce match, il me fait un peu chier, un peu comme Neymar d'ailleurs. Et donc ça, c'est le premier point négatif, c'est que j'ai peur qu'il choisisse trop ses matchs. Mais un point négatif surtout dont moi j'ai peur, c'est qu'il veuille trop combiner. Il l'a vu qu'il repart de loin, il part du milieu de terrain souvent, il vient vraiment, comme tu dis, en playmaker un peu plus bas. Bah, on se prend un but, je crois, c'est contre Lyon, où vraiment il part de loin, il veut faire une 1-2 avec Verratti à 40 mètres de ses buts. Et en fait, j'ai l'impression que des fois, il cherche trop ce 1-2, même c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui a fait sa carrière, de partir de loin et de venir casser les lignes. Mais des fois, en fait, j'ai l'impression qu'il pourrait jouer plus simple, surtout quand il est bas sur le terrain, de chercher une transversale, de chercher plus les latéraux, surtout Hakimi. Mais des fois, il veut trop trop combiner, et quand c'est trop, bah des fois, bah il a plus les jambes d'antan, donc forcément ça fonctionne pas. Je crois que c'est contre Lyon, si je suis presque sûr que c'est contre Lyon, où il fait une 1-2 avec Verratti, où on se prend le but à cause de ça, parce qu'il veut faire,
Moi, c'est
il
contre
veut
Lyon, ouais.
partir de trop loin. Ouais, c'est contre Lyon. Donc ça me dérange un peu. Mais sinon, ouais, ce serait les seuls points négatifs, c'est que ne pas trop chercher compliqué, parce que Messi, ce qui a fait sa force dans sa carrière, c'est la simplicité de son jeu. C'est aucun superflu, c'est vraiment le talent à l'état brut. Donc voilà, moi je dirais ça. Et toi, t'as vu d'autres défauts sur lui?
Bah, déjà, j'ai le premier défaut, je suis d'accord avec toi. Après, voilà, Lionel Messi a toujours eu un jeu à risque, hein. Que ce soit du côté de Barcelone, du côté de l'Argentine. Quand ça passe, c'est magnifique. Ça permet derrière de pouvoir faire très mal à l'adversaire. Quand ça rate, derrière, c'est toi qui es en mauvaise position parce que forcément, le jeu de Messi demande à tes joueurs de jouer très haut, vu qu'il a le ballon très très haut. Et donc, forcément, en contre-attaque, c'est très compliqué. Déjà, moi, ouais, c'est un premier point négatif. Je suis d'accord avec toi, je trouve qu'il a tendance à chercher le 1-2. Moi, ce n'est pas vraiment avec Verratti, même si je trouve qu'avec Verratti, à certains moments, ils sont un peu trop dans la simplicité. Ils se disent que c'est beaucoup trop simple, l'adversaire est beaucoup trop faible. Et donc, forcément, ils oublient qu'en face, ce sont des professionnels qui, eux, quand ils ont récupéré le ballon, ils veulent te faire mal. Même le dernier de Ligue 1, il est là pour te faire mal, tu vois. Il est là pour gagner, même si il va jouer à 10 derrière, tu vois. Donc, forcément, tu te découvres et c'est très dangereux. On l'a vu contre Lyon. On l'a vu. Mais je crois que Lyon aussi, il y avait plusieurs choses. Je crois même pas que c'était contre Lyon, parce que contre
C'était
Lyon,
Monaco, ouais, c'était
c'est la bêtise de Ramos. Et je crois que c'est contre Monaco qu'on se découvre. Après, Renato Sanchez est mal placé. Et tu prends le but derrière. Donc forcément, tu vois, ça c'est le premier point. Mais moi, c'est même pas avec Verratti que je trouve ça dérangeant. Je trouve plutôt que c'est avec Neymar. Avec Neymar, ils ont tendance à toujours vouloir se trouver. Ce qui est très intéressant, tu vois. On va pas cracher sur eux non plus. Mais c'est vrai que des fois, tu as l'impression qu'un Kylian Mbappé est esseulé. Il y a Mbappé qui lance des appels et il n'est pas trouvé. Je prends l'exemple du dernier match. À un moment, lorsque. Non, pas le dernier match, Kylian Mbappé n'a pas joué. L'avant-dernier match, avant la trêve internationale, à un moment, Kylian Mbappé lance un appel côté gauche et tu as Neymar qui balle au pied et essaye de trouver Lionel Messi qui est lui pris par deux joueurs. Tu vois? Et c'est vice-versa. Lorsque Neymar a le ballon, il va essayer de trouver Messi. Lorsque Messi a le ballon, il va essayer de trouver Neymar. Alors, je suis pas en
Ouais,
train
mais
de
moi
dire que c'est quelque chose.
j'ai l'impression que c'est plus Neymar de ce côté-là qui a tendance à
Ouais.
trop chercher Messi. Même si Messi, il a toujours une préférence pour Neymar face à Mbappé, j'ai l'impression que c'est plus Neymar où c'est plus prononcé que Messi, tu vois.
Mais je pense que c'est les deux côtés. Après, voilà, tu vois, je pense qu'il y a aussi une forme de facilité et de connaissance du joueur. Ils ont l'habitude de jouer ensemble, ils parlent le même football. Donc, voilà, je pense que c'est plus simple pour eux de se trouver. Ils se disent, ouais, ils ont la magie dans les pieds, etc. Mais des fois, le jeu ne demande pas ça. Par exemple, moi, c'est un exemple que je disais beaucoup sous Pochettino. Des fois, je ne comprenais pas. Tu avais l'axe qui était bloqué par 5, 6, voire 7 joueurs. Tu avais les côtés qui étaient, on va dire, libres, tu vois. Mais pourtant, tu essaies quand même de trouver ce jeu au cœur du jeu. Et tu commençais à avoir un jeu stéréotypé. Et malheureusement, bah, aujourd'hui, tu te rends compte qu'au début de saison, bah, ça passait parce que les jeux étaient un peu plus ouverts. Et là, depuis quelques matchs, bah, tu as l'impression que les équipes de Ligue 1 viennent beaucoup plus regroupées dans le cœur du jeu parce qu'ils ont compris qu'il y a un élément clé qui est arrivé au Paris Saint-Germain, qui est Vitinha. Bah, sans compter les formes actuelles de Neymar et Messi, mais tu as Vitinha qui, lui, est au cœur du jeu et qui fait très mal dans ses déplacements, dans ses placements. Et donc, forcément, bah, il joue beaucoup plus regroupé qu'en début de saison. Et à certains moments, bah, ils essayent de passer, c'est dérangeant. Ça, c'est mon premier point négatif. Après, j'en ai un deuxième, je ne sais pas si toi, tu en as un deuxième, mais moi, j'en ai un deuxième qui est encore plus dérangeant, je crois.
Vas-y, moi j'en ai déjà donné deux, je te laisse écouter ton deuxième.
Bah, moi, le deuxième, j'en ai parlé tout à l'heure en point positif, mais j'en parlerai aussi de l'axe négatif. C'est le placement défensif. C'est-à-dire qu'à certains moments, il va le faire, le pressing. Il va être bien placé défensivement, etc. Mais à certains moments, il ne va pas le faire. Tu vois? Alors, des fois, il coupe la ligne de passe entre les défenseurs et le numéro 6. Ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on demande au numéro 10, lorsque tu joues en pointe haute dans un 3-5-2, de justement couper la relation entre le 6 et la défense adverse. Quand c'est fait, c'est très intéressant. Ça empêche la relance. Derrière, tu as juste à avoir Kylian Mbappé et Neymar qui déclenchent un pressing. Ou alors, des fois, Vitinha, comme on l'a vu comment dire, au dernier match, lorsque le but de Kylian Mbappé, c'est Vitinha qui fait tout le travail. D'ailleurs, je remercie le frérot Ali d'avoir balancé son analyse sur Twitter. Mais voilà, tu vois un Vitinha qui vraiment est l'acteur majeur de ce but. Donc quand c'est fait, c'est beau. Mais quand c'est pas fait, bah derrière, tu te découvres. Parce que ça demande à tes attaquants de devoir faire des pressings beaucoup plus larges. Ça demande derrière à ton double pivot de devoir compenser défensivement parce que les mecs de devant ne redescendent très peu à part Neymar. Et donc, ça change toute ta structure défensive. Et ça, c'est un point qui te dérange. Parce que tu prenais l'exemple du Maccabi. Le Maccabi, même si on nous a expliqué un peu que voilà, le déplacement était compliqué, qu'il faisait très chaud, etc., qui est très compréhensible, tu vois, ça reste des êtres humains, ça reste des joueurs de football. Donc voilà, quand le corps a du mal à suivre, bah, c'est dur. Mais voilà, mais quand ta structure d'équipe est défensive et moins bonne, bah, tu te retrouves contre une équipe contre le Maccabi qui n'a pas ton niveau et qui pourtant déploie du jeu qui va te faire mal. Parce que tu as certains joueurs à certains moments qui refusent de faire le pressing, tu as certains joueurs à certains moments qui refusent de faire le placement, tu as certains moments, des joueurs à certains moments qui refusent de faire la compensation défensive. Et derrière, tu te découvres. Je rappelle que contre le Maccabi, on a pris quand même deux buts. Il y en a un qui est hors-jeu, mais qui fait très mal, je raconte. Et le premier but, normalement, jamais tu le prends. Le Paris Saint-Germain, dans une structure défensive logique, jamais tu le prends. Et jamais tu mets trois buts poussifs comme ça. Et ça,
Ouais, bien
ça va
sûr.
être très dangereux. Je prends l'exemple, après je m'arrête là, mais demain tu joues contre City. Avec un monstre comme Haaland. En plus, en parlant de City, tu as ton vlog qui va sortir là, je crois, tout à l'heure, non? J'ai vu ça
C'est ça, j'étais au match hier.
tout à l'heure sur Twitter, donc n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne pour voir le vlog. Mais je prends l'exemple d'un contre City. Déjà, dans le cœur du jeu, City vont te faire mal. Comment dire, dans le jeu que City va déployer, sachant que toi, tu veux jouer très haut, tu veux avoir la domination du ballon, City va te faire mal. Donc ça va être un duel de celui qui a la domination gagne le match. Mais avec un Haaland, c'est-à-dire qu'à un certain moment, tu as une mauvaise compensation qui n'est pas faite. Et donc forcément, derrière, ça demande à tes milieux de compenser énormément. Et sur un ballon, Haaland, il peut te mettre un pétard qui rentre. Bah derrière, si tu fais ça, ta structure d'équipe, elle est complètement minable, elle est complètement mise à mal et t'es mort.
Je suis d'accord, mais je pense qu'on va jouer contre City, tu vois. Il y aura Neymar qui aura plus ce rôle de numéro 10, de prendre un milieu de terrain, tu vois, comme dans le foot classique. Donc sûrement Rodri. Et tu auras plus devant un Messi, un Mbappé, vraiment à deux pointes, où ils vont devoir faire un contre-pressing sur 6, 7, 8 secondes. Ils vont devoir se faire mal, de toute façon, parce qu'ils vont pas nous dire, ouais, c'est pas notre jeu, on n'aime pas défendre. Quand tu joues face à City, s'il y a pas, si on défend pas à 11 et qu'on défend seulement à 7, c'est connu le 7 plus 3 à Paris. Si on défend à 7, on va se faire tartiner. Hier, United, ils avaient beau défendre à 11, ils se sont fait tartiner.
Ouais.
Donc, on aura besoin d'un Messi et d'un Mbappé, mais ce dont on aura sûrement besoin aussi, c'est d'un milieu de terrain très, très travailleur. Ça partira d'un Vitinha, d'un Verratti qui devront être là et qui devront vraiment travailler à 100%. Neymar, voilà, qui est un des joueurs qui court le plus au Paris Saint-Germain. Et il nous faudra surtout, parce que ce qui est très fort chez City, c'est les couloirs. Ils sont là, tu as un De Bruyne qui vient souvent dédoubler, tu as du Cancelo qui est incroyable sur le côté, tu as du Foden. Et donc là où ça va se jouer, pour moi, ça sera sur les côtés avec Mendes et Hakimi. Donc on en parlera quand on sera en finale de Ligue des Champions contre eux, quand on fera un avant-match, on aura le temps d'en parler. Mais pour moi, il faudra vraiment laisser Messi devant et pas lui demander un travail au milieu de terrain parce que ça ne servira à rien. Mais je réagis juste à un message de Youssouf qui dit Messi finito, on veut des jeunes. Je pense qu'il faut que tu allumes ta télé, Youssouf. Cette saison, Messi n'est pas finito. Il va peut-être gagner la Coupe du Monde et avoir un 8e ballon d'or. Ouais.
J'irai
Donc,
pas
ouais.
jusque-là. Moi, je pense qu'il est plus. Enfin, après, c'est Messi. Donc, en vrai, ouais, c'est vrai qu'au niveau du ballon d'or, il sera toujours avantagé par rapport à d'autres.
Bah oui.
Mais non, mais je pense que. Ouais, l'Argentine a des chances de gagner la Coupe du Monde. C'est un petit aparté. Mais pour revenir à ce que tu disais par rapport au système, donc à Lionel Messi qui sera davantage plus haut. Voilà, sur le contre-pressing, dans tous les cas, ça change rien. Que ce soit Neymar qui est en numéro 10 et qui coupe la relation avec le 6, ou Messi qui fait l'inverse. À un moment, tu as besoin d'un mec qui va faire les pressings et les contre-pressings. Et comme j'ai dit, quand Lionel Messi va le faire, ça va être incroyable. Derrière, il va avoir du mal à ressortir les ballons. Sauf que Lionel Messi, sur 10 contre-pressings, il va t'en faire 4. Les 4 vont être intéressants, mais les 6 autres.
Ah, il
Et
est
là, c'est
choisi,
un
c'est vrai.
problème. Tu vois, il est choisi. Et donc, ça va être compliqué. Après, non, mais après, dans tous les cas, je pense que les points positifs vont gommer ces points négatifs parce qu'il y a davantage de points positifs que de points négatifs. Là, c'est vraiment pour creuser un peu. Voilà,
Oui.
par rapport à la relation technique qu'il a avec Neymar, moi ça va me déranger un peu plus parce qu'à un certain moment on oublie qu'on a une fusée devant et sur les côtés. Et donc forcément on a un buteur hors pair, il l'a prouvé la saison dernière. Donc ça va me déranger à un certain moment. Mais sinon, dans la globalité, je trouve que la relation tactique et technique qu'il y a entre les deux, elle est très intéressante, elle est bénéfique au Paris Saint-Germain.
Ouais, c'est
Après.
ça. Il faut juste pas en abuser, quoi. Parce que si t'en abuses, ça devient une faiblesse, alors
C'est
que
ça.
ça peut être notre plus grande force.
Ça devient juste stéréotypé, donc forcément les équipes en face se regroupent de telle manière à stopper les relations techniques. Et au final, bah, t'es fumé, tu n'arrives plus à ressortir les ballons. Donc voilà,
Mais un
c'était.
petit point qui est intéressant, c'est quand même qu'il marque son premier coup franc après je sais plus combien de tentatives
Ouais.
avec le PSG. Je commençais à désespérer, je me disais, ouais, il est maudit ce mec,
C'est
poteau,
clair.
barre. La premier coup franc, 60e de sa carrière. Franchement, ça fait plaisir. J'espère que ça va lui donner un petit élan supplémentaire et nous marquer des coups francs en Ligue des Champions, ça peut débloquer des situations.
De mémoire, si je me rappelle bien, Juninho, t'as 78, non? Si je ne dis pas de bêtises. Dites-moi dans les commentaires si je dis des bêtises, mais je crois que Juninho, t'es dans les 78. Ouais, franchement, ça commence à me rendre fou ces coups francs. Je me disais, ouais, à un moment, vas-y, il va falloir les laisser, tu vois. Mais
Ouais, pareil.
non, il en a remis un, sachant que Neymar en a remis la saison dernière. J'ai bugué?
Non, non, il en a mis un.
Non, c'est.
Neymar, il en a mis un contre le FC Nantes en trophée des
Il en a mis.
champions, là, premier match de
Ouais,
la saison.
il en a mis un, alors que ça faisait depuis Montpellier, quoi, depuis en 2019 qu'on n'en avait pas vu. Donc, ce n'est pas pour nous de plaire. Et puis, dans le jeu, je l'ai trouvé intéressant hier, tu vois, avant-hier plutôt contre Nice. Je l'ai trouvé intéressant. Ces décalages, ces passes entre les lignes, etc. C'est très intéressant.
Ouais,
Donc,
bah quand il provoque le penalty, il provoque le coup franc, pardon, celui qui marque, il dribble deux ou trois joueurs, je sais plus, mais il te met des feintes de corps. Franchement, ça faisait plaisir parce qu'au PSG, on ne l'a pas vu souvent faire ça. Donc, c'est annonciateur de bonnes choses pour la suite. En tout cas, je l'espère.
c'est ça. Bah moi aussi, bah j'espère qu'on continuera à avoir ce Lionel Messi-là. Après, voilà, avant de couper la vidéo, parce qu'il nous reste 4 minutes, j'ai vu une petite info ce matin, comme quoi Lionel Messi ne serait plus contre à l'idée de rester au Paris Saint-Germain. Donc toi, qu'est-ce que tu penses en rapide? Est-ce que tu penses qu'on devrait le conserver ou est-ce que tu penses qu'on devrait le laisser partir?
Bah, s'il continue comme ça sur la saison, je pense que ça serait bête de ne pas le prolonger d'un an, sachant que c'est que un an, tu vois, on parle pas d'une prolongation de 2, 3 ans hein, qui est super engageante, là c'est un an. Et après, voilà, j'ai pas envie de parler de malheur, mais tu vois qu'Mbappé, on ne sait pas vraiment s'il va rester, puisque son contrat, c'est finalement pas 3 ans, c'est 2 ans plus un an. Donc si Mbappé veut partir cet été, parce que je pense que tous les étés, on va avoir la saga Mbappé au Real Madrid.
Non,
Donc
quoi.
si part cet été, je pense que dans l'équilibre de l'équipe, ce sera plus simple. Avec un Neymar et un Messi sans un Mbappé, même si je préférais que ce soit un Neymar et un Mbappé sans Messi. Hein. Mais je pense que ça sera encore plus simple dans l'équipe de l'effectif et du 11, s'il n'y a que deux parmi les trois, en fait. Parce qu'ils sont tellement forts, les trois, ils ont tellement des caractéristiques un peu communes, c'est-à-dire pas de repli défensif, les trois veulent être les playmakers. Mbappé, quand on lui demande d'être un joueur vraiment de surface, il l'a dit en équipe de France, ça lui plaît pas trop. Donc moi je pense que les dossiers Messi et Mbappé sont un petit peu liés. Mais dans tous les cas, si Messi fait une saison comme il est en train de la faire, s'il finit à 30 buts et 30 passes décisives, quel club ne voudrait pas le prolonger?
Pour répondre à Vincent A, c'est qu'il y a Mbappé part et si on construit le PSG autour de lui, pour moi, non. Voilà, il est trop âgé pour construire un projet autour de lui. Donc forcément, lorsqu'il va partir, ça va créer un vide, comme tu l'avais à Barcelone l'année dernière. Je pense qu'il faut, si tu veux, si Mbappé part, il faut davantage plus construire le projet autour de Neymar que Messi. Ça, c'est pour la petite anecdote. Pour la petite info. Moi, la petite info, ouais, ça sera intéressant de le prolonger d'un an. Après, forcément, si tu as mieux sur le marché, pas mieux. Entre guillemets, hein, parce que je pense pas que les joueurs aient meilleur, mais par exemple, si tu arrives à aller chercher un Nkunku, ça serait intéressant, même si j'ai vu l'info comme quoi ce matin il aurait signé un pré-contrat avec Chelsea, donc on ne sait pas encore si c'est vrai. Mais forcément, si tu as la possibilité d'aller chercher un Nkunku qui pour l'avenir sera plus intéressant, oui, il va prendre Nkunku, mais sinon, Lionel Messi, non, il est toujours performant et il sera performant la saison prochaine. Donc oui, ça serait intéressant de le prolonger. Je suis d'accord avec toi, les dossiers Neymar, les dossiers Neymar, les dossiers Messi et Mbappé semblent liés. De toute façon, je pense que Mbappé, voilà, déjà, c'était compliqué de le garder. Tu lui as promis des choses, finalement, il n'a pas ce qu'il voulait, même s'il nous saoule avec ses bouderies, etc. Mais je pense que ça va être compliqué la saison prochaine pour le conserver. En sachant que derrière, là, cette saison, tu as un Neymar qui est étincelant et qui a pris toute la lumière.
Ouais.
Donc, ça va être compliqué de le garder. Donc, il va falloir aller chercher un nouveau joueur. Mais conserver Messi, ouais, pourquoi pas. Et puis même, faut pas négliger aussi l'aspect économique. L'aspect économique, Messi rapporte énormément au Paris Saint-Germain. Il faut pas, tu vois, ça serait nier l'évidence. Forcément, le PSG a tout à gagner à essayer de le conserver. Donc
Ouais,
voilà.
c'est le meilleur joueur de l'histoire du football pour moi, donc s'il peut rester dans mon club de cœur, je vais pas cracher dessus.
Voilà. Du coup, c'était la vidéo sur Messi. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche. Ça nous aide au référencement déjà, première chose. Et puis surtout, vous avez les notifications lorsqu'il y a des nouveaux lives, des nouvelles vidéos, etc. Ça, c'est la première
Yes.
chose. La deuxième chose, je vais vous demander d'aller faire un tour dans la description, pardon, de la vidéo. Vous avez le lien de notre partenaire, le livre audio Audible. Vous avez plusieurs livres possibles à aller voir, des livres sur le football. Je lisais tout à l'heure un livre où les coachs donnaient des conseils aux joueurs, etc. J'écoutais, pardon. Donc, allez faire un tour, c'est très intéressant. Et puis, vous avez des superbes promos. Et puis nous, bah, du coup, on se retrouve demain où je vais sûrement tourner une vidéo avec Tonton, puis une vidéo avec Drias. Je vous invite à aller faire un tour sur la chaîne de BR10, comme je l'ai dit, qui va sortir son vlog sur le match de City United, qui va être très intéressant. Et puis surtout, c'est un débriefeur PSG qu'on adore. Donc n'hésitez pas à aller
Merci
faire un
beaucoup.
tour. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Parfait, 25 minutes.